a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Avec Emmanuel Macron dans ce budget, ce sont toujours les mêmes qui vont payer.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
C'est l'heure de votre rendez-vous avec la vie politique en France. Voici Dimanche Politique.
Philippe Le Caplin.
Avec Romain Ouzouis, ce qu'on dit les uns et les autres. Et nous décrypterons cette parole avec vous, Frédéric Dabi. Bonsoir.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur général adjoint de l'Institut de sondage IFOP. Hier, il y avait, selon la police, 84 000 manifestants qui portaient un gilet jaune dans toute la France, comme le samedi précédent. 10 000 à Toulouse, 7 000 à Paris, 2 500 à Marseille, 4 000 à Bordeaux, 1 000 à Lyon, 800 à Nantes, cela sans violence marquée. Et ce sont donc encore des dizaines de milliers de personnes dans la rue, malgré le grand débat. Autant dire que cette 10e journée de mobilisation depuis le 17 novembre faisait figure de test pour l'exécutif, qui mise sur ce grand débat national lancé cette semaine par Emmanuel Macron pour apaiser cette fronde. Nous allons nous y intéresser, bien sûr. Mais avant cela, Romain, ce qui s'est passé hier.
Oui, le retour des slogans Macron démission dans les différents cortèges de gilets jaunes. Et face à cette mobilisation donc qui ne faiblit pas, eh bien l'exécutif tente de désigner un coupable, l'extrême droite. Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement.
Ce que je constate, c'est que deux des leaders revendiqués, même s'ils refusent d'être leaders, parce qu'il faudrait qu'il n'y ait pas de leader dans un mouvement, ce qui évidemment complique la chose, que ce soit Maxime Nicole alias Flyrider, ou que ce soit Éric Drouet, emprunte plus volontiers au champ politique de l'extrême droite qu'à d'autres champs politiques. Quand je vois que le service d'ordre, qui est celui de la manifestation qui se tienne, que ce soit à Paris ou dans d'autres endroits, est assuré par certains paramilitaires proches de l'extrême droite qui ont servi en Europe centrale et dont on connaît les idées puisqu'ils les affichent sans aucun état d'âme sur les comptes de leurs réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. Oui, il y a cette tendance.
Voilà, une tendance vers l'extrême droite. Donc, dans le mouvement des Gilets jaunes, Benjamin Griveaux, invité ce dimanche du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Hier, en tout cas, c'est l'un des enseignements de cet acte 10. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Pourtant, ce n'est pas la lecture de Laurence Saillé, porte-parole du Parti Les Républicains.
Moi, je n'ai pas le sentiment que ça se passe bien parce que hier encore, des centaines de Français n'ont pas pu travailler. Des boutiques ont été encore dévalisées et il y a beaucoup de violence. Il faut se rendre compte quand même qu'il y a beaucoup de centres-villes qui sont totalement bloqués. Ça fait le 10e week-end, on ne peut pas dire à tous ces Français que les choses se passent bien. À Toulouse, Laurent Wauquiez y était cette semaine, c'est 30% de chiffre d'affaires, des boutiques qui ferment, à Paris aussi. Vous voyez qu'il y a des zones totalement maintenant désertées. Donc moi, aujourd'hui, je pense à tous ces gens qui ne peuvent pas travailler et je demande à ce que l'ordre revienne.
Voilà, une situation qui est encore loin d'être apaisée, donc selon la porte-parole du Parti des Républicains ce matin sur CNews.
Frédéric David, l'IFOP, la mobilisation n'a pas faibli malgré le lancement du débat. 84 000 personnes, je le disais, recensées officiellement. Les gilets jaunes ne désarment donc pas. Cela veut dire que le mouvement s'inscrit maintenant dans la durée.
Bah clairement oui. S'il y a un acte 10, on a maintenant un rendez-vous ritualisé, celui du samedi. Et c'est vrai que le lancement du débat national, pourtant qui apparaît réussi, n'a pas changé les choses. Ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'il faut décorréler ces différents actes de mobilisation d'une logique quantitative. Hein. Vous le disiez, 80 000 personnes, 100 000 personnes. C'est beaucoup moins que lors des manifestations pour la réforme de la SNCF qui ont pourtant échoué. C'est encore moins que le grand mouvement social des années 2010 contre la réforme des retraites. Qu'est-ce que ça pèse par rapport à 45 millions de personnes inscrites en France sur les listes électorales? Pour autant, il y a, on voit, et c'est depuis le début de cette mobilisation, même si la nature des revendications a peut-être évolué, c'est que les mots d'ordre des gilets jaunes constituent le reflet de craintes qui résonnent fortement chez les Français. La crainte du déclassement. Dans une enquête IFOP, il n'y a pas très longtemps, deux tiers des Français ont le sentiment, une enquête IFOP pour nos coms, deux tiers des Français ont le sentiment, la certitude que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Cette focalisation sur le pouvoir d'achat, et puis, autre élément, le soutien des Français reste élevé, plutôt l'adhésion. La dernière mesure IFOP fiduciale pour CNews et Sud Radio, 58% des Français ont du soutien ou éprouvent de la sympathie pour ce mouvement. Mais attention, le soutien pur n'est plus que de 33%, il était de 51% au début du mois de novembre. Donc les violences, même si les Français font une vraie dichotomie entre les revendications et les violences, ils séparent le bon grain de l'ivraie, le soutien quand même baissé.
Cela dit, il n'y a pas eu de violence spectaculaire hier et la semaine dernière, pas de débordement comme il y en avait eu, car le mouvement se structure. Demande d'autorisation de manifester, organisation d'un service d'ordre, On assiste finalement à un mûrissement, à une consolidation de ce mouvement.
Clairement, oui. D'ailleurs, il y a un autre élément. Il y a eu un vrai cortège avec 15 kilomètres dans Paris, ce qui a peut-être évité violences. Maintenant, la question, c'est comment va déboucher ce mouvement. Est-ce que ça va déboucher sur une traduction politique à travers, comme on l'entend, une liste pour les élections européennes? Une dernière enquête IFOP fiduciale pour Valeurs Actuelles donnerait entre 7 et 8% d'attention de vote. C'est beaucoup. Dans d'autres enquêtes, 16% des Français se disent gilets jaunes. Ou bien, est-ce que ça va finir par s'effilocher? Est-ce que le grand débat va permettre de recouvrir ces revendications? Sur le grand débat, je pense qu'on est sur deux mouvements extrêmement différents. Gilets jaunes d'un côté, grand débat de l'autre.
Et justement, on y vient, ce grand débat. Pour canaliser deux mois de colère sociale exprimée par les Gilets jaunes, il y a donc ce débat national lancé par Emmanuel Macron cette semaine. Le président de la République s'est lancé dans une opération marathon en mouillant la chemise au sens propre comme au sens figuré, Romain.
Avec deux étapes cette semaine pour le chef de l'État. La première mardi, jour du lancement du grand débat. Il a passé 7 heures, Emmanuel Macron, avec des maires de Normandie. Deuxième étape, il y a deux jours, vendredi, dans le Lot, dans le sud-ouest de la France. Emmanuel Macron à nouveau sur le grill. 6h30 cette fois, pendant lesquelles il a écouté et répondu aux inquiétudes des maires qui, pour certains, n'ont pas hésité à frontalement l'interpeller, à l'image de Henri Vanriès, maire de Saint-Cirgues.
Arrêtez de stigmatiser, d'opposer, de mépriser, parce que cela ne fait que générer de l'incompréhension et de la violence. Nous avons eu M. Sarkozy, casse-toi pauvre con. Nous avons eu M. Hollande, les sans-dents. Et vous maintenant, les salariés de GAD, des illettrés qui n'ont même pas de permis. Une gare, c'est un lieu où on croise des gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Et cette semaine, les gens en situation de difficulté, on va les responsabiliser car il y a ceux qui vont bien et ceux qui déconnent.
Je n'ai pas de master, option langue de bois, avait prévenu ce maire du Lot et on s'en rend bien compte. Réponse à présent d'Emmanuel Macron.
La société dans laquelle nous vivons peut parfois conduire à sortir des phrases de son contexte, parfois même à faire tamponner des mots. J'aurais pu vous enregistrer tout à l'heure et vous faire dire le pire en rapprochant un mot de l'autre et créer, en les faisant tourner sur les réseaux sociaux ou en faisant des polémiques, des choses terribles. Je ne suis pas comme ça.
Voilà la ligne de défense d'Emmanuel Macron vendredi à Souillac dans le Lot devant plusieurs centaines de maires.
Devant plusieurs centaines de maires, il était entouré de beaucoup de monde, le président de la République Frédéric Dabi. Cela rappelait finalement ces meetings de candidats, même si la différence qu'il s'agissait de maires donc et non pas de militants de la République en marche. Alors il était offensif, il était punchy. Est-ce que vous diriez qu'Emmanuel Macron est reparti en campagne?
En tout cas, il a repris la maîtrise de l'agenda politico-médiatique. Qu'est-ce qui a fait caractériser cet automne horribiliste et cette fin d'année très compliquée? Ce sont les événements des Gilets jaunes à la démission de Nicolas Hulot. Les événements se sont imposés à lui. Là, il renoue non pas avec le fil de sa campagne, mais il tente de renouer avec les Français. Quand on regarde les sujets de mécontentement à son égard, certes, il y a l'absence de résultats sur le pouvoir d'achat, certes, il y a le sentiment que la politique est injuste, mais le problème pour beaucoup de Français, c'est lui. Ce sentiment, comme ça a été dit par ce maire du Lot, de mépris, d'arrogance et de déconnexion avec le vécu des Français. Donc, ce lancement, en passant en plus par les maires, qui sont les seuls élus qui échappent, à la défiance vis-à-vis du politique, c'est une manière pour lui de renouer, non pas le fil de sa campagne, mais renouer avec les Français. Ça a porté quelques fruits, si on en croit la dernière enquête IFOP, JDD.
Oui, justement, c'est aujourd'hui dans le journal du dimanche, c'est le sondage du jour. Cette opération reconquête semble être illustrée par votre étude d'opinion à l'IFOP.
Oui, bien sûr, c'est un bol d'air dans un contexte d'impopularité structurelle forte, c'est le cinquième mois consécutif avec 70% de mécontents, mais d'une part, il remobilise son socle électoral qui tient malgré tout avec la posture du président courageux qui réforme avec détermination, avec cohérence par rapport à sa campagne, et puis il y a eu un véritable bouger. C'est-à-dire, avec ce que le président a lancé avec le débat, les Français en parlent peu, mais la symbolique du débat et le fait d'aller vers les maires, ça donne le sentiment qu'il écoute, qu'il a pris en compte la colère du peuple, c'est ce que nous disent les Français dans cette enquête IFOP JDD, et donc on a le sentiment qu'il a évolué, qu'il tente de casser cette image d'arrogance et de mépris. Pour autant, il reste quand même structurellement impopulaire.
Il prend 4 points, il est donc à 27%. En tout cas, il enraye la chute qu'il avait entamée au printemps.
Toute l'année même, 2018.
La prochaine prestation du chef de l'État dans le cadre de ce grand débat, ce sera jeudi prochain, mais avec un nombre cette fois plus réduit d'édiles locaux. Ce débat national est articulé autour de 4 thèmes. Pouvoir d'achat, fiscalité, démocratie, environnement, que le chef de l'État donc a défendu lors de ses deux déplacements. Et ils sont bien sûr beaucoup commenté aujourd'hui, Romain, ces déplacements en région.
Hein. Oui, d'abord, comment se passent les premiers jours de ce grand débat national? Cette question a été posée ce soir à l'une des deux ministres en charge de ce débat, Emmanuel Wargon, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Sa réponse.
La plateforme a ouvert il y a même pas une semaine et on a quand même 600 manifestations, 600 débats qui ont déjà été déclarés. À peu près la moitié sont ouverts par des maires. À peu près la moitié sont ouverts par des citoyens, en fait 40%, 40%, et le reste ce sont des associations. Donc on voit bien que tout le monde s'en empare. Donc il y a une volonté, les médias ouvrent des possibilités de débattre, les associations s'y mettent, les foyers de jeunes travailleurs, par exemple, à Saint-Malo, le responsable du foyer de jeunes travailleurs me disait qu'il ferait un débat dans son foyer. Moi je rencontre beaucoup de gens que ça intéresse, qui y vont, qui ont envie de contribuer.
Voilà, Emmanuel Wargon ce soir sur LCI, porteuse du débat national et donc évidemment enthousiaste par les premiers échanges ces derniers jours. Laurence Salier, porte-parole du Parti Les Républicains, elle est beaucoup moins enthousiaste. À travers cette consultation, elle soulève un point précis.
Quand on voit Emmanuel Macron faire des one-man shows pendant 6 heures, combien ça coûte aux contribuables? C'est une question qu'il faut poser et c'est à eux de nous donner la réponse. Quel montant sera remis dans les comptes de campagne d'En Marche? Tout ceci, il faut le dire, car on ne va pas continuer comme ça à laisser penser qu'Emmanuel Macron est engagé pour mettre fin à la crise qui apparemment ne le dérange pas plus que ça, alors que simplement il est en train de jouer les élections européennes.
Voilà, un débat pour se relancer en vue des européennes, la lecture donc de la porte-parole du Parti Les Républicains sur CNews, parti auquel adhère toujours Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre. Lui se réjouit de la tenue de ce débat national, il estime d'ailleurs que les Gilets jaunes n'ont d'autre choix que d'y participer, Jean-Pierre Raffarin.
Aujourd'hui, on ne peut pas être dans une démocratie et dire le choix pour les Français, c'est d'un côté la violence, de côté le débat. Le débat s'impose à tous. Dans une démocratie, on ne peut pas refuser le débat. Mais alors, donc il faut participer au débat. Que les Gilets jaunes y participent, qu'ils organisent leur débat, qu'ils organisent leur contribution, qu'ils fassent des propositions. Il faut qu'ils soient dans la démocratie.
Jean-Pierre Raffarin, invité ce dimanche du grand jury RTL, Le Figaro, LCI.
Alors que le gouvernement faisait état avant-hier de 788 demandes de référencement de débats locaux sur la plateforme internet qui a été créée spécialement, celle-ci publie une liste de quelques 500 débats déjà programmés jusqu'au 31 mars. Frédéric Dabi de l'IFOP, on passe de la rue au cahier de doléances, le mode d'expression change.
Oui, bah c'est le pari du gouvernement de faire changer ce mode d'expression. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a bien deux, je dirais, mouvements différents. Le mouvement des Gilets jaunes d'un côté, même s'il est peu suivi quantitativement, mais on a bien vu que les mots d'ordre résonnent chez les Français. Et puis, c'est cahier de doléances, cette grande consultation. La question que sans doute vont se poser les Français, c'est quel débouché pour ces consultations? Comment l'exécutif va prendre en charge, va synthétiser tout ce qui va en sortir? Et là, il y a un risque, déceptif tout à fait important. Autre élément, quand avec l'IFOP, on travaille sur de la démocratie participative, notamment au niveau local, on voit très bien qu'il y a un profil particulier de personnes qui participent. C'était pas la France des Gilets jaunes, c'est une France plutôt âgée, une France plutôt diplômée, une France plutôt des catégories sociales moyenne et supérieure. Est-ce qu'il va y avoir une autre France, celle des Gilets jaunes, qui va participer, une France plus populaire, plus jeune, qui va participer à ce grand débat? C'est là le pari du gouvernement et sincèrement, ici et maintenant, dimanche 20 janvier, il est trop tôt pour dire comment les choses vont se dérouler.
Et l'un des membres de ce gouvernement, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, dit aujourd'hui que les jeunes doivent s'emparer de ce grand débat national.
Philippe Le Caplain.
Et dans sa lettre aux Français qui ouvre le grand débat national consécutif donc à la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron évoque des quotas migratoires, une mesure qui ne figurait pas dans son programme mais que François Fillon, candidat des Républicains, défendait pour l'élection présidentielle en 2017. De l'Europe, il en est beaucoup question dans les prises de parole des uns et des autres ce week-end.
Oui, déjà la question des alliances qui se font et se défont, alliances ou pas, entre le Rassemblement National de Marine Le Pen et Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan. Après la présidentielle, le deuxième a tendu la main à la première, qui semble-t-il ne l'a pas saisie. Nicolas Dupont-Aignan, invité de BFM Politique ce dimanche.
Pour les européennes, je lui ai proposé d'aller même plus loin. Et je lui ai dit, il faut tirer les leçons de l'échec de la présidentielle. Pourquoi tu n'as pas été élu? Il faut que les alliances soient beaucoup plus larges et il faut aller jusqu'aux Républicains. Je lui ai envoyé un programme européen. Elle ne m'a jamais répondu. Et j'ai compris qu'elle ne concevait l'Union qu'à sens unique si on défend son parti.
Voilà, le rapprochement donc entre Debout la France et le Rassemblement National qui ne semble pas à l'ordre du jour. Pourtant, Marine Le Pen, elle aussi, bat la campagne. Premier meeting hier samedi avant les européennes et le retour de la question des Gilets jaunes. La présidente du Rassemblement National a apporté un soutien appuyé au mouvement.
La révolte des Gilets jaunes, saine et bienfaisante, légitime et courageuse, est venue sonner la fin de récréation d'un gouvernement inexistant et sonner les cloches d'un président déconnecté et méprisant. Je sais qu'ici, à Avignon, Orange, Cavaillon, Carpentras, Bolène et dans beaucoup d'autres endroits, les Gilets jaunes ont été et restent actifs. Qu'ils en soient félicités, qu'ils en soient remerciés. La France les soutient, l'Europe les regarde et a envie de les imiter.
Voilà, l'Europe regarde les Gilets jaunes et Marine Le Pen regarde, elle, vers les européennes. Propos recueillis au tort dans le Vaucluse par notre reporter Anne Souhaitemont. Voilà donc pour la droite de la droite. Qu'en est-il du côté du parti Les Républicains? Sur la question des européennes, il semble qu'aujourd'hui le cœur de Jean-Pierre Raffarin aille davantage vers le projet d'Emmanuel Macron que celui de Laurent Wauquiez. On écoute l'ancien Premier ministre.
Le projet européen d'Emmanuel Macron, pour moi, est un projet recevable. C'est un projet positif. Je pense que le président de la République a une structure politique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, trop faible. Et parce que cette idée d'avoir un parti qui est aujourd'hui assez nébuleuse, c'est pas suffisamment solide. Je crois qu'il devrait travailler à une coalition où d'un côté il aurait le centre droit que représentent les constructifs, de l'autre côté un centre gauche et à l'intérieur En Marche, bien sûr. Donc si je regarde les projets aujourd'hui, je suis plus près du projet de Macron que des discours que j'entends du côté des LR. Mais je ne veux pas accuser qui, puisque pour le moment, LR est en grande mutation.
Alors justement, il y faisait référence, la parole à présent, au parti président qui avance ses pions et ses idées en vue du scrutin de juin prochain. Ce matin, Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, se disant favorable à des objectifs chiffrés européens. Écoutez.
Moi, je crois, au fond, à des objectifs chiffrés européens, si je vous dis le fond de ma pensée. Pour des raisons simples, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des règles tellement différentes entre les pays de l'Union européenne. L'Europe doit s'emparer de ce débat, et parce que la base de l'Europe, c'est la solidarité entre les pays européens, la solidarité, elle doit aussi jouer sur la question migratoire. Nous ne pouvons pas être que quelques pays européens à assumer cette question de l'asile et cette question de l'immigration. Ça doit être quelque chose de partagé entre les pays de l'Union. Et donc moi, je pense que la bonne échelle pour répondre à cette question, c'est l'échelle européenne.
Voilà Benjamin Griveaux qui parle des quotas sans prononcer le mot qui fâche. C'était ce matin sur Europe 1.
Frédéric Dabi, la question migratoire sera le thème central des élections européennes qui auront lieu au mois de mai?
Ça sera un thème important, mais on sait aussi, Philippe, en France, qu'aux élections européennes, c'est souvent des thèmes internes. Politique, par exemple, un vote sanction par rapport au gouvernement, c'est ce qu'on a vu aux élections, par exemple, européennes de 2014, qui a touché François Hollande. Maintenant, c'est vrai que les questions européennes intéressent de plus en plus les Français, car ils ont le sentiment que les solutions sont à l'échelle de l'Europe. Et là où ils voient un sentiment d'impuissance, c'est sur différents sujets, le climat, le terrorisme et la question des migrants. Ça peut être le thème central qui peut faciliter un bon score pour le Rassemblement National.
Et en lançant sa campagne européenne, Marine Le Pen a dit qu'elle allait chercher Macron. Clairement, elle veut surfer sur le mouvement des Gilets jaunes, le récupérer, alors que jusque-là, elle était quand même plutôt discrète.
Oui, et quand on regarde la structure du soutien des Français au mouvement des Gilets jaunes, ce sont les sympathisants de la France Insoumise et ceux du Rassemblement National et les électeurs de Marine Le Pen qui soutiennent le plus ce mouvement. Maintenant, le piège pour Marine Le Pen, ce serait une liste Gilets jaunes. Dans l'enquête de l'IFOP et Fiduciel faite pour Valeurs Actuelles, on voit très bien que la liste du Rassemblement National recule nettement lorsque l'on teste une liste Gilets jaunes.
Dernière chose, le politologue Jérôme Sainte-Marie, qui vient lui aussi régulièrement dans Dimanche Politique, dit ceci: le piège électoral de la gauche ayant été réalisé par le candidat Macron dès le premier tour de la présidentielle, les électeurs de droite constituent aujourd'hui les seuls électeurs disponibles susceptibles de soutenir le chef de l'État. Vous partagez cette analyse?
Oui, c'est une stratégie qui a commencé dès le lendemain de l'élection présidentielle avec la nomination d'Edouard Philippe, un homme qui se disait de droite, avec le vote de réforme qui plaisait énormément à l'électorat de droite, loi travail, réforme de la SNCF, et là, avec la stratégie d'Emmanuel Macron, ça cherche aussi à mobiliser un parti ou des sympathisants attachés à l'ordre et à la sécurité, donc plutôt des sympathisants de droite. Faut pas oublier qu'Emmanuel Macron s'est mis à dos des retraités qui votent aussi fortement à droite. C'est sa stratégie dans l'enquête IFOP JDD. Il progresse de 5 points chez les retraités et chez les sympathisants de droite.
Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Institut de sondage IFOP, merci beaucoup d'être venu dans ce studio de RFI en ce dimanche soir.